Julien, finalement, t'es revenu, hein, t'es pas resté en bas,
Oui,
il
on
y a
devait
du
être au
bruit.
bocal
Hein.
avec Carole, et puis du coup, il y a une fanfare qui s'est pointée devant pile devant la tente.
Donc t'es revenu dans le studio calme.
Exactement, on a fait un aller-retour très vite avec Carole Crabbé de la campagne Vêtements Propres.
Bonjour.
Bonjour Carole, comment vas-tu?
Je vais très bien.
Alors, ça fait maintenant 3 ans que la campagne Vêtements Propres vient sur le festival, depuis la thématique Travail décent. On va peut-être rappeler à nos auditeurs, auditrices, ce qu'est la campagne Vêtements Propres.
Oui, mais c'est une campagne qui dénonce les conditions de travail dans les usines qui produisent la plupart des vêtements qu'on vend dans nos magasins, hein, dans les magasins ici en Europe, et qui essaye de changer les choses en mettant les consommateurs en mouvement, mais également en appelant les entreprises qui distribuent ces vêtements à changer leurs pratiques pour vérifier si les droits des travailleurs sont respectés dans leur filière.
Alors depuis maintenant bientôt 10 ans, le festival avait une thématique par an. On parle plus de cette thématique. Aujourd'hui, on parle plutôt de démarche que veut valoriser le festival, en tout cas, qui veut le mettre en route. C'est vrai qu'il y avait une thématique, mais que par ailleurs, dans le festival, il y avait certains endroits où la thématique, elle était un peu en porte-à-faux, notamment dans un endroit du festival qui s'appelle le Souk. C'est là où il y a les marchands, les restaurateurs. Et alors cette année, le festival, enfin cette année, mais en fait c'était il y a 3 ans, je pense, une initiative est partie, une collaboration entre ton ASBL, donc Campagne Vêtements Propres, et le festival, pour un peu plus de cohérence. Alors de quoi il s'agit en fait? On va voir les restaurateurs, on va voir les marchands pour faire quoi?
Alors, on essaye qu'ils intègrent des critères, soit sociaux, soit de respect de l'environnement, en ce qui concerne l'alimentation notamment. Et donc, évidemment, nous, on est absolument pas experts en matière alimentaire. Par contre, on sait un petit peu comment ça se passe dans les filières d'approvisionnement en vêtements. Et donc, nous avons proposé à Esperanza de les accompagner, d'accompagner les organisateurs pour que, dans le souk, les marchands aient une vision sur ce qui se passe dans leur filière, donc tous les petits marchands, micro-entreprises qui parsèment le souk. C'est chaque fois des filières particulières avec des ateliers familiaux souvent, qui fournissent les vêtements avec parfois des relations très 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 étroites entre la personne qui est dans le souk et la famille qui produit. Et donc, on a envie de savoir, mais qu'est-ce qui se passe en termes sociaux? Est-ce que les salaires sont correctement payés? Est-ce que les filles qui travaillent pour leur père, par exemple, dans un atelier, peuvent à ce moment dire, oui, voilà, je peux devenir indépendante de ma famille, je peux me marier, etc. Donc, essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que on leur a soumis un questionnaire cette année où ils ont expliqué, voilà, ce qui se passe. Donc, manifestement, une majorité produisent en ateliers familiaux. Mais en même temps, ils disent, nous, on contrôle tout, on sait ce qui se passe, on sait que les gens sont bien traités, parfois très bien payés. Mais en même temps, ils n'apportent aucun élément
C'est ça,
de vérification et de
on les
preuve,
croit sur
forcément.
parole, quoi.
Voilà. Donc, on est contraint de les croire sur parole. Et après tout, on a plaisir parfois à les croire sur parole parce qu'il y a des chouettes projets derrière. Mais ça manque un peu cet élément de preuve, surtout pour une organisation tierce, hein, un organisateur de festival. S'il veut donner la parole à ses marchands, il faut au moins qu'il s'assure que ce qu'il raconte est crédible. Mais en même temps, dire à ces micro-entreprises que sont ces marchands, vous devez signer un code de conduite, vous devez faire partie de telle initiative de vérification, c'est une autre planète pour eux, quoi. Et donc, avec Ophélie, notamment d'Esperanza, on a développé avec eux, avec le festival d'abord, une démarche qui est de dire, OK, donc maintenant on sait, on a un peu plus de transparence sur la filière, et quelle sera l'étape ultérieure. Et donc, ce que nous allons proposer aux marchands cette année-ci, c'est de dire, eh bien, puisque vous connaissez bien ces ateliers familiaux, vous y passez du temps avec eux, pour la prochaine édition, eh bien, nous, on a envie de savoir si effectivement il y a tout simplement une boîte de secours dans l'atelier, si il y a du matériel anti-feu à disposition, parce qu'un atelier de confection textile, il n'y a rien de plus inflammable.
Inflammable. Oui.
Est-ce qu'il y a dans ces ateliers familiaux qui sont souvent au sein même de la maison familiale, est-ce qu'il y a des sorties de secours qui sont accessibles, qui ne sont pas encombrées de boîtes, etc., etc. Donc voilà, on veut que vous nous ameniez pour la fois prochaine des photos qui montrent qu'effectivement ça existe. Et donc on quitte un petit peu ce formalisme de dire code de conduite, etc., en essayant d'inciter un autre regard de la part des marchands vers leurs fournisseurs et dire tiens, oui, c'est des trucs tout à fait basiques et même si je m'entends très très bien avec le patron et qu'il n'y a pas ça, eh bien, c'est quelque chose qui peut être amélioré quand même.
Alors ça, c'est le dispositif. Comment ça quelle est la réponse en face? Tu disais tout à l'heure qu'il y a eu des réponses au questionnaire. Là, maintenant, tu viens de faire un tour dans le souk. Est-ce que tu as noté certaines choses? Comment ça évolue?
Alors, on n'a pas eu le temps de faire un long tour dans le souk. Concrètement, j'ai eu la possibilité de parler déjà avec une personne qui vend des vêtements dans le souk. La première réaction qu'elle a eue, c'est de dire « Oui, mais enfin, culturellement, c'est pas du tout la même chose qu'ici. Et donc, on peut pas leur imposer. C'est du paternalisme, etc. etc. » Moi, je ne crois pas que c'est du paternalisme parce que ça crée vraiment un autre regard. Et qu'après tout, c'est la loi là-bas aussi. Même si on est dans une petite entreprise au Rajasthan, en Inde, au Bangladesh, au Pakistan, peu importe, eh bien, il y a une loi qui oblige les entreprises à avoir ce type de matériel. S'ils l'ont, tant mieux. S'ils ne l'ont pas, ben, ça ne coûte pas très cher de faire en sorte que ça existe.
Alors ça, c'est quelque chose que tu fais tout au long de l'année à Vêtements Propres, hein, dans la campagne Vêtements Propres. C'est aussi se renseigner sur les conditions de travail, c'est travailler avec les syndicats dans les pays du Sud. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà fait, ce que tu es en train de faire dans le festival à Esperanza? Et accessoirement, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire dans d'autres événements?
Alors non, pour nous, c'est une toute première aussi. Notre travail consiste beaucoup plus à interpeller des Levis, des CEA, des H&M ce genre d'entreprises, quoi, et qui ont d'autres moyens pour répondre à ce genre de questions. Donc pour nous, c'est une expérience très, très intéressante de toucher ces micro-entreprises. D'autant plus que c'est vrai qu'il y a une démarche éthique. On ne peut pas nier que certains des marchands ont une réelle démarche éthique derrière. Et il faut la valoriser, il faut là aussi la relativiser, parce que l'éthique, ça veut rien dire et ça veut tout dire à la fois, c'est très 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 malléable. Mais en tout cas, il faut donner la possibilité de montrer ça. Et là, c'est un travail sans doute de plus long terme, notamment dont on va tirer des fruits de cette expérience-ci avec Esperanza. Et on va aussi tirer des fruits d'autres expériences avec notamment des stylistes bruxellois qui ont envie de mettre plus en valeur leur filière, etc. etc.
Les festivaliers, eux, comment ils sont au courant? Il y a une transparence aussi des informations que vous avez recueillies des marchands vers le festivalier cette année?
Peu. Il faut bien dire que c'est peut-être un peu la lacune. Donc il y a effectivement, en termes de communication, notamment en radio ces derniers jours, un peu plus d'appui sur la cohérence, mais on ne va pas vraiment dans les détails. Au sein même du festival, on ne voit rien. Concrètement, c'est pas quelque chose qui perce, quoi, hein. On ne le sent pas suffisamment. Et donc, oui, il y a des marchands qui mettent commerce équitable en grand, mais il n'y a pas ce module qui peut mettre en valeur ce que font effectivement des marchands de manière très constructive et qui les pousse à dire bah tiens oui, la prochaine fois on passe une étape supérieure, enfin ultérieure, et on la met en valeur aussi. Donc là, je crois que ça reste à travailler, ça reste encore un peu trop, à mon sens, quelque chose que oui, c'est important pour Esperanza. C'est quelque chose qu'on travaille depuis toute l'année avec les marchands. Au niveau de l'information, ça manque encore un petit peu. Le festivalier n'est pas encore suffisamment informé.
Tu disais tout à l'heure que derrière le mot éthique, il y avait des choses très différentes. Est-ce que les commerçants entre eux discutent justement et s'échangent peut-être les bons plans, les mauvais plans, et discutent des différentes démarches qui sont mises en place?
Alors, je n'en sais rien. Je crois qu'il y a une grande méconnaissance des systèmes qui sont mis en place, justement. Ce sont des indépendants purs et durs. Et donc, par définition, les indépendants purs et durs...
Justement, dans un lieu comme Esperanza, ils se retrouvent?
Oui, mais j'ai pas l'impression que ça se fasse automatiquement. Et donc, effectivement, la proposition qu'on fait, c'est de se revoir en septembre, en octobre, avec tous les marchands
tout le
concernés,
ensemble,
pour voir un peu si cette idée qu'on a et qu'on est en train de partager pour l'instant a du sens et peut aller de l'avant. Mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup, beaucoup de communication entre les marchands là-dessus.
Tu sens que ces murs, c'est des choses qui, il y a peut-être 5, 6, 7 ans, auraient été difficiles à mettre en place. C'est-à-dire que les commerçants étaient vraiment à part, faisaient leurs choses. Tu sens qu'aujourd'hui, il y a vraiment plus de réflexion, qu'il y a quand même des choses qui arrivent à maturité là-dessus?
Je pense, oui, je pense que les marchands comprennent qu'ils doivent être transparents sur leur filière. Et ça, ils ne l'auraient peut-être pas été il y a 4 ou 5 ans. Maintenant, ce qui manque, c'est un petit peu plus de compréhension du pourquoi on le fait. Et ça fait partie de la communication.
Alors ce matin, moi je voudrais qu'on aborde un autre côté, hein. La campagne Vêtements Propres, je le disais tout à l'heure, est présente sur le festival depuis 3 ans. Il y a ce qu'on appelle la ligne du temps dans la place au possible. Je voudrais qu'on revienne sur les luttes qu'on entendait et que vous avez pédagogiquement présentées les années précédentes. Ce matin, tu le sais peut-être pas, mais on entendait Yannick Etienne dans cette radio que tu connais, qui était de passage à Bruxelles et qui nous a parlé dans le poste ce matin de cette zone franche à Haïti. On ne va pas refaire l'histoire puisqu'elle est déjà passée. C'est une des luttes qui était soutenue aussi par la campagne Vêtements Propres. Mm-hmm. Qu'est-ce qui s'est passé entre l'année dernière et cette année? Est-ce qu'il y a eu des victoires? Est-ce qu'il y a eu des défaites dans le monde du travail décent, textile?
Alors, il y a toujours des petites victoires ponctuelles qui font qu'on est toujours un peu content de savoir pourquoi on travaille. Donc ça, c'est déjà ça, mais qui restent malheureusement trop souvent des choses ponctuelles. Mais il y a quand même des tendances peut-être intéressantes. On est allé en 2008 avec la campagne JO Propre, donc à l'occasion des Jeux Olympiques de Pékin, pour dénoncer les conditions de travail dans les industries qui produisent les baskets, les équipements de sport. Eh bien, il faut savoir que depuis 2008, il y a une table ronde qui fonctionne et qui continue à fonctionner maintenant, où se retrouvent les principales marques. Donc on retrouve Nike, Adidas, Puma, enfin toute une série d'entreprises bien connues, qui pour l'instant travaillent sur un projet précis en Indonésie pour voir comment on peut faire valoir de manière plus correcte en Indonésie la liberté syndicale au niveau des usines qui produisent pour eux, et comment faire lorsqu'une usine doit fermer pour que les droits des travailleurs soient respectés. Donc c'est deux aspects différents. Et donc ça, c'est des choses qui bougent lentement, mais qui sont là dans la permanence aujourd'hui. Donc ça, c'est sans doute une sorte de victoire.
T'as l'impression que c'est juste de la pommade, ou que ça y est, il y a des entreprises quand même qui réfléchissent vraiment beaucoup plus qu'il y a quelques années?
Alors, c'est sûr qu'il y a des entreprises qui réfléchissent beaucoup plus qu'il y a quelques années sur ces thématiques-là. De là à croire qu'elles changent réellement leurs pratiques pour éviter la violation des droits des travailleurs, il y a une nuance à faire, évidemment. Mais que des entreprises, et surtout de grosses entreprises, qui sont cotées en bourse, investissent du fric pour faire en sorte que elles puissent montrer que les conditions de travail sont correctes dans leur filière, oui, ça existe aujourd'hui.
Elles le sont vraiment, ces conditions? Il y a des choses cachées, tu penses, encore aujourd'hui, quand Nike peut toujours montrer, par exemple, une belle entreprise de chaussures où on respecte les conditions de travail, et cacher une autre qui respecte rien du tout?
Bien entendu. Je ne parlerai même pas de cacher. Il faut savoir, c'est quand même des filières avec des milliers d'usines, etc. Il y a des choses, il y a des coins plus obscurs que d'autres, disons.
Par exemple?
Par exemple, du travail de migrants en Thaïlande, dans des usines de Thaïlande ou de Malaisie, de migrants du Bangladesh, qui vivent vraiment comme des... Enfin, pire que dans une porcherie, et qui travaillent pire que dans une porcherie pour Nike. Ça existe encore aujourd'hui.
C'est quoi l'actualité de la campagne Vêtements Propres en tant que citoyen? Est-ce qu'on peut aider la campagne? Il y a une campagne dans la campagne?
Il y a toujours une campagne dans la campagne. Oui, pour l'instant, c'est une campagne que nous menons sur la thématique spécifique du salaire. Et je vais l'illustrer en disant simplement, il y a 10 jours, le comité qui s'occupe de la fixation des salaires au Bangladesh a décidé d'augmenter le salaire minimum vital au Bangladesh. Et donc, il va vraisemblablement passer de 1600 taka, ça veut dire 20 euros par mois, à 3000 taka. Donc ça fait un peu moins du double, disons 40 euros. Eh bien, cette augmentation ne couvre même pas l'augmentation du coût de la vie depuis l'avant-dernière, augmentation des salaires. Aujourd'hui, en termes de salaire, les travailleurs qui produisent nos vêtements sont scandaleusement exploités. Et vraiment, scandaleusement, il n'y a pas moyen de vivre décemment avec une famille de 2 enfants, par exemple, avec les salaires qu'on reçoit après 14 heures par jour, 7 jours sur 7. Et donc ça doit changer. C'est vraiment un des summums de l'exploitation, c'est de faire travailler des gens sans leur permettre de vivre. On est presque en état d'esclavage. Et donc on mène cette campagne en proposant aux consommateurs d'envoyer des cartes à 5 cibles particulières qui sont Carrefour, Aldi, Lidl, Trafic et Cora. Alors vous allez me dire, ce n'est pas des marques de vêtements, c'est des grands distributeurs. Eh bien justement, aujourd'hui, on constate que les grands distributeurs et les discounters ont un tellement gros pouvoir d'achat grâce au pouvoir d'achat que nous leur donnons, qu'ils sont à même de vraiment
changer les choses.
Changer les choses s'ils le veulent, mais en tout cas d'influencer de manière aussi très négative ce qui se passe dans les filières. Et donc, c'est eux, sans doute, qui doivent aussi bouger de manière importante aujourd'hui.
Carole, avant que tu t'en ailles, avant qu'on termine, on a une petite tradition.
Et maintenant, la question à Violaine.
La question à Violaine.
Alors, c'est sur le mode du questionnaire de Proust. Hein. Parfois, c'est au hasard. Il faut piocher une petite question et y répondre. Et on la lit à l'antenne.
Puis je tiens à préciser qu'on sait très bien qu'on dit la question de Violaine.
Mais oui, c'est une erreur.
Une de nos petites private jokes. Voilà, la question à Violaine.
Votre occupation préférée? C'est d'être interviewé par Julien, bien sûr.
Ouais, c'est un peu facile, ça. Et moi, je compte pour du beurre, quoi.
Je connais pas ton prénom.
Alors, Étienne, Carole, Étienne.
Ben voilà.
Merci,
c'est
Carole.
C'est un plaisir.
D'accord, très bien.
Merci beaucoup, Carole. On se voit l'année prochaine, hein, puisque
oui,
la cohérence continue dans le souk. Peut-être qu'on se reverra au cours de l'année pour discuter de ce qui s'est passé dans le souk par rapport aux différentes discussions que tu peux avoir. Pour ceux qui veulent réécouter Yannick Etienne, cette syndicaliste haïtienne qui lutte en zone franche à la frontière avec la République dominicaine, c'est déjà sur radio.esperanza.be. Je pense qu'on va proposer à Carole de le poster sur la campagne
Mes
vêtements propres.
Excellente idée.